Alors, on avait vu que, effectivement, dans la Torah, il y a à peu près rien directement sur le Rosh Hashanah, à part cette histoire de chauffard. Et encore, si on s'en tient à ce qui est écrit dans la Torah, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas du tout qu'on sonne du chauffard. On sait seulement, on sait que c'est un jour de souvenir ou un jour de trouva. Comme on ne sait pas ce que c'est que la trouva, si on s'en tient à ce qui est écrit dans la Torah, bon, on ne sait pas ce que veut dire ce mot, ben on ne sait pas du tout qu'il s'agit de souffler dans un chauffard. On ne sait rien. On sait rien à partir de la Torah. Donc, dans la Torah, pratiquement, on nous dit quelque chose sur qui se passe sur ce premier jour du septième mois, mais on ne comprend pas ce qu'on nous dit. Alors, il y a dans le, comme je vous ai dit, il y a donc deux versets principaux. Un verset qui nous dit que ce premier jour du septième mois, c'est Yom Zichron Trua, un jour de Zichron. Alors, Zichron, c'est la même zar, c'est la racine de Zecher, qui veut dire le souvenir. On le trouve dans le mot Zikaron. Donc on voit qu'il y a ça à voir avec un souvenir, mais on ne sait pas de souvenir de quoi. Donc, c'est un des noms de Rosh Hashanah, Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Mais on ne sait pas de quel souvenir il s'agit. On a vu que c'était aussi Yom HaDin, ce qui est un midrash qui dit que Hachem a dit à Adam, de la même manière que toi, je t'ai jugé, je t'ai acquitté, tes descendants, ils sont jugés, acquittés aussi, quand? Le septième mois. Mais de là, on apprend que c'est Yom HaDin, un jour de jugement. Et du coup, on a dit que Rosh Hashanah, c'était un jour où on était jugé, et donc, à la suite de ce jugement, il y a prononcé du jugement, et donc les gens qui sont jugés sont ou réputés zakaïm, ou bien ils sont réputés, disons, innocents, ils sont réputés, bon, ils ont bien passé, ils ont passé avec succès le jugement, ou ils sont tout à fait négatifs, ils sont des rechaïm, ils ont mal réussi on a mal passé le jugement, ou alors ils sont ce qu'on appelle bénonis, c'est-à-dire ils sont moyens, c'est-à-dire que si on veut prendre cette image-là, ils sont à 50-50. Voilà, c'est le prononcé. Alors, ce qu'on fait avec ceux qui ont bien réussi et ceux qui ont mal réussi, c'est clair, les bien réussis, bon, ils vont vivre, quel que soit le sens de ce mot vivre, et les autres non. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont moyens? Ils peuvent pas, quoi, ils vivent un jour sur deux, ou quoi. Alors, en fait, on a dit que Yom Kippour, qui a lieu donc un jour plus tard, on allait sceller définitivement, donc, le résultat du jugement à Rosh Hashanah. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cet entretemps-là? Alors, dans cet entretemps-là, on a dit on pouvait modifier. C'est-à-dire, ça concerne essentiellement ceux qui étaient moyens, ils vont pouvoir modifier, c'est-à-dire, ils vont pouvoir tomber d'un côté ou de l'autre. Et pour tomber d'un côté ou de l'autre, ben, ça dépend de la façon dont ils vont se conduire. Mais depuis Rosh Hashanah, depuis le premier jour, on est dans ce qu'on appelle la nouvelle année. Donc si je fais des bonnes choses entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est-à-dire entre le premier et le 10 du septième mois, j'ai fait des bonnes choses qui comptent pour l'année suivante. Donc ça va en rien modifier le résultat du jugement qui portait sur l'année précédente. Donc cette année, si vous allez, si on va faire à partir de du premier, à partir du Shabbat, du Rosh Hashanah, on va faire des mitzvot. Ces mitzvot, elles vont compter pour l'année 84 et pas pour le 83. Or, le jugement, il est sur 83. Il n'est pas sur 84. Donc, on ne peut pas modifier les choses en faisant des bonnes choses, des mitzvot, dans les 10 jours en question. Alors, à quoi ça sert, alors, si on ne peut pas modifier? Alors, on ne peut pas modifier de cette manière-là, mais on peut modifier parce qu'il existe ce fameux principe, cette première, fameuse mitzvah qui s'appelle teshuva. La teshuva, c'est un truc incompréhensible, extrêmement mystique, etc., qui fait que on peut revenir sur le passé. Il y a une possibilité de réinterpréter comme si on pouvait revivre les événements. Donc, imaginez que on a vécu certaines choses, on a mal vécu, c'est-à-dire on n'a pas fait les choses qu'il fallait faire. Eh bien, on peut faire tshuva. Tshuva, ça veut dire je regrette ce que j'ai fait, je voudrais ne pas l'avoir fait, et je prends des mesures pour ne plus le faire. Et ce processus-là, sur le passé, le présent, le futur, l'essentiel, c'est bien sûr le futur, d'accord, les mesures que je prends pour ne pas retomber dans les mêmes ornières. Bon. Et ça s'appelle tshuva. Et la tshuva, elle permet de modifier les choses de 83. C'est-à-dire, une avéra que j'aurais faite en 83, donc cette année. Bon. Si quelqu'un a fait une avéra aujourd'hui, eh bien, dans les 10 jours, on peut faire ça tshuva. Tshuva, on peut faire tous les jours, mais c'est plus, c'est, on est un peu aidé quand on fait le tshuva dans les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. On est plus aidé quand on fait tshuva n'importe quand. Bien que la mitzvah soit de faire tshuva, bien sûr, n'importe quand. Faire tshuva tous les jours. On doit faire tshuva tous les jours en réalité. Eh bien, on peut, cette chose-là qui était négative, donc qui faisait que j'étais en équilibre parce qu'il y avait cette chose-là négative du côté du sur le plateau d'un négatif, eh bien, je peux la transformer, je peux l'annuler. Donc, elle ne pèse plus du côté négatif. Du coup, on tombe du côté positif et on est considéré comme des gens bien. Et donc, on est du côté de ceux qui ont bien réussi le jugement. Et si on fait rien, alors, puisque tu n'as pas utilisé l'occasion qui t'a été donnée, eh bien, ça va te compter comme une faute. Ne pas faire tshuva, c'est une faute. Ce ne sont pas les fautes que je pourrais faire dans les 10 jours en question qui vont balancer les choses, pas plus les mitzvot que les averot, puisque ça compte pour l'année d'après. Mais la tshuva, elle agit sur le passé. Alors, il y a deux, enfin, on sait, on va parler de ça maintenant. Il y a deux façons de faire tshuva. On peut faire tshuva, comme on dit, mi-yira, par crainte. Par crainte de la sanction, par crainte, par une crainte qui s'appelle yirat haromemut, ou bien la crainte révérentielle. Comment est-ce que je peux me présenter devant Hachem avec un paquet tellement négatif? Il faut que j'allège cette négativité. Et si on fait tshuva par crainte, alors c'est comme je vous l'ai dit, ça annule le négatif. Au lieu d'être moins quelque chose, c'est zéro. Mais on peut faire mieux. Il y a une possibilité de faire tshuva par amour. Pas par crainte, mais par amour. Et si on fait tshuva par amour, alors non seulement les fautes ne sont plus les fautes, mais cette faute-là qui était en moins 15, elle devient comme une mitzvah, elle est en plus 15. Donc, la tshuva par amour, elle renverse complètement les choses. D'accord? Ça veut dire non seulement, les fautes sont annulées, mais elles sont même valorisées dans l'autre sens, elles changent de signe. Ce qui était négatif devient positif. Comment ça marche, c'est pas pour l'instant le sujet. Donc on peut faire la tshuva de cette manière-là, deux façons. Mais pour s'en sortir, il suffit d'avoir fait tshuva, même par crainte. Alors, amour, c'est difficile, mais même par crainte, ça suffit aussi. Puisque on aura zéro au lieu du négatif. Donc, ces 10 jours-là, ils s'appellent Aseret Yemei Tshuva, ces 10 jours de Tshuva, français on dit 10 jours de pénitence, en vérité, je ne sais pas pourquoi on dit pénitence, bon, c'est bien de faire pénitence, mais bon, l'important c'est faire Tshuva, parce que Tshuva c'est... C'est pas vraiment bien traduit par pénitence. On n'entend pas. Teshuva, c'est une réponse, en fait. Teshuva en hébreu, ça veut dire réponse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réponse au sens de la responsabilité. Je prends la responsabilité de ce que j'ai fait et j'ai le pouvoir de le modifier. Je suis responsable de modifier ce que j'ai fait en étant responsable de ce que j'ai fait. Alors, il y a les choses que j'ai déjà dites. En vérité, nous, on a l'habitude justement de regarder Rosh Hashanah, puis Kippour. Comme si Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, et puis Kippour, c'est le jour où les choses sont définitivement actées, en fait. Mais si vous regardez dans le texte de la Torah, si vous regardez les versets qui présentent les fêtes, les moadim, donc il y a les versets sur Pessah, Shavuot, Sukkot et sur Kippour, et à chaque fois, ça correspond à quelque chose qui a eu lieu à ce moment-là. À Pessah, on mange la matzah, mais c'est la sortie d'Égypte. À Shavuot, bon, on mange du gâteau au fromage. Mais c'est Matan Torah, c'est le don de la Torah. À Sukkot, il y a les cabanes, on mange aussi, il y a aussi une mitzvah de manger dans la souka, vivre dans la souka. Et à Kippour, ben, il s'est passé un truc énorme à Kippour, puisque Kippour, c'est l'anniversaire du don des deuxièmes tables. Nous, on vit sur les deuxièmes tables, puisque Moshe Rabbeinu a brisé les premières. Et il a obtenu qu'Hachem m'en donne des nouvelles. Et le jour où il est redescendu avec les nouvelles tables est devenu le jour de Kippour. Mais ce fameux premier jour du 7e mois, que nous on appelle Rosh Hashanah, ça correspond à rien. Rien du tout. Il n'y a pas d'événement particulier. Alors certains vont dire que c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Pas la création du monde, mais la création de l'homme. Dire c'est le 6e jour de la création. Le monde a été créé le 25 Elul. S'il y avait eu un calendrier, on aurait dit le 25 Elul. Et l'homme a été créé le premier Tishri, c'est-à-dire le 6e jour. Ce jour-là, l'anniversaire de la création du monde, il est considéré comme Rosh Hashanah, comme le premier jour de la nouvelle année, en fait. Mais, comme je vous ai dit, la notion de nouvelle année, elle n'existe pas telle quelle, en tout cas, pas pour le premier Tishri dans la Torah, elle figure dans la Mishnah. Le mot Rosh Hashanah, il est dans la Mishnah. Il y a un traité de la Mishnah, donc traité de la Gemara aussi, qui s'appelle Rosh Hashanah, qui s'occupe de la fête de Rosh Hashanah. Le problème, c'est que la Mishnah qui parle de Rosh Hashanah, elle nous dit que des Rosh Hashanah, il y en a quatre. Il n'y a pas un seul Rosh Hashanah, il y en a quatre. Il y a un Rosh Hashanah qui est celui que nous connaissons, qui est dans la Mishnah, il est dit que ce jour-là, donc l'anniversaire de la création de l'homme, les hommes défilent devant Hachem, ils les regardent un par un, et ils les jugent. Un par un, ils sont jugés. Mais il y a un Rosh Hashanah qui est le 15 Shvat, qui s'appelle Tu Bishvat, qui est plus connu, Tu Bishvat. Oui, quoi. Ben, ça correspond à la remontée de la sève dans les arbres, à peu près. Il y a un Rosh Hashanah, un autre Rosh Hashanah, ça en fait deux. Il y a un Rosh Hashanah qui est un Rosh Hashanah des Mlachim, des rois, c'est-à-dire en quelque sorte une espèce de Rosh Hashanah de la société juive, en fait. Et il y a aussi un Rosh Hashanah qui est un Rosh Hashanah par rapport à la dîme des animaux. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de donner la dîme des troupeaux. C'est-à-dire, vous prenez les nouveau-nés donc de votre troupeau et vous allez les compter. Un, deux, trois, etc. Et le dixième, vous le mettez de côté, il va devenir un korban, maaser, on va l'amener comme korban au Beth Amikdash. Et tous les dix, la dîme, elle vient de là, va prélever un sur dix, il va être un korban. Et donc, évidemment, si on veut compter, il faut fixer une origine pour savoir, ben, les nouveaux ici, à partir de quand? Alors, c'est le premier Elul. Quand c'est le Rosh Hashanah, ça veut dire que tous les animaux, les nouveau-nés qui sont nés à partir du premier Elul vont passer en revue là et on va prendre un sur 10. Donc il y a quatre, il y a quatre Rosh Hashanim, quatre Rosh Hashanah. Alors, ce jour-là du premier jour du septième mois, on va dire Rosh Hashanah pour dire rapidement, mais voilà. Ce jour-là, donc anniversaire de la naissance, donc on va fêter l'anniversaire. On va se souvenir, c'est un jour de souvenir, se souvenir de la création, en particulier la création de l'homme. Et donc quand on essaye de faire un travail de souvenir, alors qu'est-ce qu'on fait? On va répéter la chose, mais on a un problème, c'est que quand vous avez une création, vous ne pouvez pas, si par souvenir vous entendez refaire la chose, ben c'est pas possible parce que ça sera plus une création. Bon, la seule chose qui donne cette idée de création, même quand elle se répète, c'est la reproduction sexuelle, si vous voulez. Parce que il s'agit de produire, de répéter avec avec ce qu'on a des générations précédentes. Et néanmoins, c'est pas simplement, ça peut être vu comme une création, parce que le résultat est à chaque fois différent. Parce qu'il n'y a pas de reproduction sexuée. On reproduit pas, puisqu'à chaque fois, ça donne autre chose. Quand tu prends les gamètes, etc. Et ça donne chaque naissance d'un être humain, c'est un nouvel être humain qui n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'autres d'êtres humains jusque-là qui avaient exactement, qui était exactement une copie des parents, quoi, ou d'un des parents, des parents, peu importe. Donc il n'y a pas, sauf justement, dans ces processus de reproduction humaine, fécondité, si vous préférez. C'est pour ça que il y a des idées de fécondité avec le Rosh Hashanah. C'est pour ça que une des choses qu'on dit concernant l'histoire et qui est en rapport avec le Rosh Hashanah, c'est que Sarah Imenu, là, donc Sarah, Rachel et Hana, la mère de Shmuel, sont devenues enceintes à Rosh Hashanah. Donc il y a cette espèce de principe. Il y a trois femmes qui produisent des choses très, très importantes, que ce soit Yitzhak, Yosef ou Shmuel. C'est des bouleversements dans l'histoire juive. Eh bien, ces bouleversements ont eu lieu à Rosh Hashanah. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot pour dire que elles ont été, Hachem s'est souvenu d'elles à Rosh Hashanah, c'est pas qu'Hachem Zachar, il s'est souvenu avec le mot Zecher, mais avec un autre mot qui veut dire le souvenir, qui est Pakod. Nifkeda. Sarah Nifkeda Pakod. Dans Yalé Veyavo, quand on mentionne le Zecher, on parle aussi de la Pekida. D'accord? Zichroneinu ou Fikdoneinu. Donc c'est un autre mot, Pakad, qui veut dire quelque chose de, c'est un souvenir, mais qui donne un programme en quelque sorte. Parce que ça donne aussi le mot pakid, qui en hébreu moderne veut dire un employé. Quelqu'un qui a une tâche. Quelqu'un qui a ça à faire quelque chose. Donc, à Rosh Hashanah, il y a, cette idée aussi d'une, hein, le Zecher par le biais de la notion de fécondation. On avait, dans les deux mots, on a parlé de la tshuva pendant les Aseret Yemei Tshuva. Le processus de tshuva, comme je vous ai dit, c'est un processus où on regrette la faute. D'abord, faut prendre conscience d'abord qu'on a fait une faute. Ensuite, regretter cette faute. Dans l'idée, je voudrais ne l'avoir jamais faite. Je comprends que c'est négatif. Je comprends qu'il y a des, c'est pas simplement que j'ai fait une bêtise et puis c'est tout. Non, cette bêtise, elle a des conséquences, en fait. Et puis, je prends des mesures pour ne plus retomber dans ces fautes-là. Et donc, on est obligé de prendre conscience de la faute. Et donc, quand on fait tshuva, le maasé, l'acte de la mitzvah, l'acte de la mitzvah de Akhilat Matzah, c'est de manger la matzah. D'accord? Eh bien, c'est de manger dans la soukha. Quel est l'acte de la tshuva? C'est ce qu'on appelle le vidouille. Le vidouille, c'est une confession. Bon, il y a une confession à faire. Mais la confession, contrairement à ce à quoi on est habitué un peu en Occident, disons, en chrétien en tout cas, c'est dans la Torah une confession faite par l'homme devant Hachem, et pas devant un autre homme. Et on fait attention que personne n'entende ma confession. Bon, c'est une histoire complètement privée entre Hachem et moi. Enfin, entre moi et Hachem dans la mesure, c'est moi qui dois faire qui me confesse. Je confesse la faute. Donc, on a 10 jours pour faire. D'accord. Faire cette tshuva. Et le paradoxe, c'est que les 2 premiers jours, qui sont ces 10 jours, c'est Rosh Hashanah. Or, à Rosh Hashanah, il n'y a pas de vidouille. À Rosh Hashanah, on fait même attention de ne pas mentionner les fautes. Donc, la question qui se pose, c'est comment on se débrouille pour faire tshuva sans mentionner les fautes. Comment tu fais tchouva sans mentionner la faute? Parce que la tchouva, c'est prendre conscience qu'on a fait une faute et essayer de l'effacer le lendemain. Alors, peut-être je vous l'ai déjà dit, l'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut faire tchouva, finalement? Pourquoi c'est important d'être, de bien sortir à ce jugement-là? Parce que bien s'en sortir, ça veut dire que je suis en position de jouer le rôle qu'Hachem veut que je joue. C'est quoi le rôle que je dois jouer dans le monde? La raison pour laquelle Hachem a, pour qu'on puisse en dire quelque chose, a créé le monde, c'est pour que on le reconnaisse comme notre roi. Reconnaître qu'Hachem est le roi du monde. Et en fait, à Rosh Hashanah, dans la liturgie de Rosh Hashanah, vous verrez, vous savez bien, que le point le plus important, c'est le mot Melech, qui veut dire le roi. Toute la liturgie de Rosh Hashanah est articulée autour de Melech. Tous les psoutim, etc., c'est toujours, vous savez, tous les poèmes qu'on dit, etc. Il n'y a pas de bidouille, mais tout ce qu'on ajoute, c'est toujours la malchoute d'Hachem, la royauté divine. Parce qu'en fait, ce jour-là, on est jugé dans la, pour savoir dans quel, est-ce qu'on peut jouer notre rôle d'être ceux qui vont reconnaître Hachem comme roi. C'est une drôle de démarche de la part d'Hachem, si on peut parler comme ça, presque une espèce de fragilisation de la part d'Hachem, que d'avoir créé un monde et de demander que les gens de ce, dans ce monde, on reconnaisse la royauté. Ce que ça veut dire, c'est comme si il nous donnait un pouvoir. Ça n'a de sens de le reconnaître que si on pourrait, si on peut ne pas le reconnaître. Si je suis obligé de le reconnaître, eh bien, je suis un robot. Donc, Hachem, il n'a pas besoin de créer des hommes, mais il a quelques robots et c'était réglé. D'accord? Donc, il crée des hommes qui sont susceptibles de dire non, mais il attend de ces hommes et il va les aider à accepter parce que c'est bien pour eux, c'est pas pour eux, c'est pas pour Hachem, c'est pas qu'Hachem en a besoin, mais c'est bien pour eux de reconnaître cette royauté. Eh bien, à Rosh Hashanah, on va reconnaître la royauté d'Hachem directement. Pas passer par se qualifier en éliminant les fautes qui nous disqualifient pour reconnaître Hachem. Non, eh bien, on va directement se qualifier, enfin, directement reconnaître la royauté d'Hachem. Et c'est pour ça que le centre de la tfila, la prière, toute la liturgie de Rosh Hashanah, c'est la notion de royauté. Et à Rosh Hashanah, on est bien jugé, parce qu'on a dit que c'est un jour de jugement. Mais sur quoi est-ce que je suis jugé? Je suis jugé sur la capacité qui est la mienne à ce moment-là de reconnaître la royauté d'Hachem. Dans quelle mesure je reconnais la royauté d'Hachem? Alors, pour revenir sur le shofar, on a beaucoup parlé la dernière fois, quand on sonne du shofar, il y a une machloket, en quelque sorte, entre le Harizal et le Gaon de Vilna. Auparavant, je vais dire la chose suivante. Le Rambam, il a donc écrit le Yad, Yad Chazaka, donc son grand ouvrage halakhique. Dans cet ouvrage-là, il n'y a que de la halakha. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de grandes idées, il y a des halakhot. Néanmoins, Quand Rambam parle de la mitzvah de chauffard, il dit, le chauffard, c'est effectivement, ah, merci. Le chauffard, c'est effectivement une mitzvah, c'est une gzéra d'Hachem, c'est un décret divin, mais le chauffard, il a une fonction réveil. C'est un réveil, pas obligatoirement le matin, mais aussi le matin éventuellement, ça dépend, c'est un réveil. Et réveil, le Rambam explicite, il dit, le chauffard, il vient nous dire, réveillez-vous, sortez de votre torpeur, de cette torpeur dans laquelle vous êtes des gens qui ne réfléchissez pas à ce que vous faites. Donc c'est ça donc il y a une espèce de, il y a un discours, si on peut parler comme ça, du chauffard. C'est un discours sans mots, sans parole. Pas de parole. Mais quoi? Pas de parole, mais du souffle, finalement. Parce que qu'est-ce que c'est le, ce qui se passe dans le chauffard? C'est le souffle de l'homme, c'est l'intériorité de l'homme qui est exprimée à l'extérieur et qui donne, qui va dans le chauffard, pas le souffle. Donc, il s'agit de d'être capable de reconnaître, enfin, d'accepter Hachem comme roi. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire accepter Hachem comme roi? C'est pas comme vous pensez peut-être, vous baladez avec un badge, Hachem est mon roi, ou bon, la couleur du Coca-Cola, ou etc. D'autres couleurs. Mais c'est, en fait, accepter que nous ayons des comptes à rendre devant ce roi, devant Hachem, comptes à rendre sur nos actions, sur nos paroles et même sur nos pensées. Parce que quand on accepte un roi, le chair et le sang, bon, on va avoir des comptes à rendre sur nos actions. Mais sur nos pensées, on peut continuer de penser ce qu'on veut, et si on fait bien attention, on peut aussi dire ce qu'on veut. Mais devant Hachem, tout est ouvert. Et donc, les comptes, il faut les rendre, non seulement sur les actions, mais aussi sur les paroles, et aussi sur les pensées. Ça veut dire que je dois en permanence considérer que je suis en présence d'Hachem. Alors je. Ouais, cet être en présence d'Hachem, ça modifie toute ma conduite. Comme dit Rambam, on ne se conduit pas de la même manière quand on est en présence de quelqu'un d'important ou de quelqu'un dont l'opinion nous est importante que quand on est tout seul. Bon, que va changer complètement les choses. Eh bien, c'est ça. Quelle mesure est-ce que je peux accepter cette royauté? Alors, vous me direz, ok, ben, c'est sûr que cette acceptation-là, elle est conditionnée, elle est induite, si vous voulez, par la conduite que j'ai eue toute l'année d'avant, quoi. C'est vrai. Donc, ça veut dire, c'est vrai qu'on me juge sur l'instant, le jour du couronnement du roi. C'est le jour du couronnement du roi. Alors, je vais être jugé là. Alors, comme c'est le couronnement du roi, alors il y a ce que j'étais en train de, j'ai commencé de vous dire, une marloquette entre le Harizal, donc l'inventeur de la Kabbale qu'on dit l'Orientalisme, et le Gaon de Vilna, le Harizal, il considère que le chauffard, c'est un peu dans la ligne du Rambam, quelque chose qui vient nous réveiller et qui est plutôt du genre à faire pleurer, quoi. Tu prends conscience de où tu en es, ben, le bouleversement que ça doit générer en nous, C'est quelque chose qui, bon, qui nous secoue, quoi. Alors que le baron de Vinay, lui, il était archi joyeux. Donc, il y a le chauffard, parce que c'est le couronnement du roi. Donc, le chauffard n'est pas quelque chose qui vient te rappeler, etc. Alors, au contraire, c'est les trompettes de la gloire, quoi, quelque part. On publie la gloire du roi. Donc, c'est deux façons de faire. D'ailleurs, si vous regardez les, il y a un minhag avant les tkiyot de dire quelques psukim, quelques versets. Il y a des versets qui vont dans le sens du Harizal et des versets qui vont dans, enfin, un verset dans le sens du Harizal et un verset dans le sens du Gaon de Vilna. Un verset qui parle de moi, de mon âme, etc. Et un verset qui dit, ça, je me réjouis comme quelqu'un qui a trouvé un super trésor, etc. C'est comme le verbe. Là, vous pouvez choisir comment vous voulez vivre le Kiryat Shofar, c'est open. Cette histoire de tout à coup, c'est le couronnement du roi, etc. C'est quelque chose. En fait, quand on aura expliqué que la Troua, dans le verset, dans les deux versets qui parlent de Rosh Hashanah, c'est quelque chose, c'est certains sons qui sont produits avec le shofar. Donc, on aura parlé dans ce verset, on est arrivé à dire quelque chose du shofar. Et aussi, comme dans le verset qui dit que c'est un zichron, Troua, on dit quelque chose d'une action de souvenir. Et c'est tout. Il y a deux sujets. Le souvenir et le shofar. Il y a un chazal qui dit, Hachem a dit au Bnei Israël, Imrou le fanaï, dites devant moi, des versets qui parlent de ma royauté afin que vous m'acceptiez comme roi. Deuxièmement, dites devant moi des versets qui parlent de la notion de souvenir afin que votre souvenir monte devant moi et que je puisse vous faire du bien. Troisièmement, dites devant moi des versets qui parlent du shofar et on dit que sur les deux premiers, vous dites devant moi des versets parlant de ma royauté ou de notion de souvenir, moi elle demande, et avec quoi? Avec le shofar. Et ça donne, si vous voulez, le point culminant, si on peut parler comme ça, dans la liturgie de Rosh Hashanah. On va sonner du shofar en Rosh Hashanah. Et on va sonner du shofar durant la prière. La prière, c'est la Amida. C'est la Shmoneh Esrei, la semaine. C'est une Amida avec sept bénédictions Yom Tov, neuf pour Rosh Hashanah, parce que, pourquoi il y en a plus à Rosh Hashanah? Parce que, en fait, il y en a deux autres de plus à cause de la mitzvah de sonner du shofar. Je m'explique tout de suite. À Moussaf, la prière de Moussaf, la prière. Les prières de Moussaf, c'est des prières qui sont des suppléments, comme on l'indique. C'est des suppléments de prières qui sont ajoutés Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov. Et c'est dans ces suppléments-là qu'on dit quelque chose de particulier, de Shabbat, de Rosh Chodesh et de Yom Tov. Alors, dans à l'intérieur de la prière en question, on a introduit trois bénédictions supplémentaires qui correspondent justement à ces trois ajouts, puisque c'est ce que Hachem a demandé. Il a demandé qu'on dise des versets parlant de la royauté. Donc, on va dire dans la Amida, 10 versets parlant de la royauté. 3 de la Torah, 3 des Nevi'im, des prophètes, 3 des Ketuvim et un en plus. Parce que on allait jusqu'à 10. Et cette structure-là, elle va se retrouver pour la royauté, pour le souvenir et pour le shofar. Et donc, il y a une introduction, 10 versets, et une bénédiction qui parle de la royauté, qui parle du souvenir et qui parle du shofar. Ensuite, on sonne du shofar. Bon, on sonne du shofar. Et c'est ça l'essentiel de la mitzvah de sonnerie du shofar. Alors, bien sûr, on peut aussi s'acquitter de la mitzvah du shofar. En dehors de la prière, on est aussi acquitté. Mais le top du top, c'est de s'en acquitter de cette manière-là. Ensuite, il y a des minagim différents. Il y a ceux qui vont sonner du shofar, y compris dans la Amida Belachash, c'est-à-dire dans la Shmoneh Esrei à voix basse, privée donc, et une deuxième fois dans la répétition de la Shmoneh Esrei. Ça, c'est les Sfaradim, ou les Sfardim, ça veut dire ceux qui, c'est les Ashkenazim qui ont ajouté à la prière Ashkenaz quelques petits ajouts pour tenir compte des commentaires des explications du Harizal après la Kabbale. Et puis, par contre, ceux qui sont Ashkenaz et pas sans tendance kabbalistique, eux, ils ne sonnent pas pendant la Amida à voix basse, ils ne sonnent que dans la répétition. Ceci étant, on a, pour des raisons qu'on parlera après, on a aussi fait en sorte de sonner avant tout, on sonne avant la Amida, ça s'appelle les tkiyot de Meyushav. Normalement, ça veut dire c'est les tkiyot où on est assis, mais tout le monde est debout. Mais bon, ça s'appelle, c'est les tkiyot qu'on sonne avant. On sonne avant la Shemesh. C'est un peu pour embrouiller le Satan, etc. Mais l'essentiel des sonneries, c'est a priori celle de la Amida. Sinon, c'est un peu compliqué pour la bonne raison qu'une fois qu'on a sonné, on a fait la mitzvah. Donc, c'est un peu paradoxal, c'est que ce qu'on fait avant, de sonner avant, ben, ça nous empêche de faire vraiment la mitzvah au niveau top, puisque quand on a sonné, on a sonné. D'accord? Donc, tu l'as fait la mitzvah. Donc, quand tu vas sonner après, c'est très bien. Mais on a déjà été yossé. Ça veut dire que si tu rentres chez toi après avoir entendu les sonneries de Mirkal, tu as entendu la mitzvah de Tkiyat Shofar, tu as fait la mitzvah de Tkiyat Shofar, terminé. C'est compliqué à comprendre pourquoi on a fait ça comme ça, mais semble-t-il, c'est très important. Alors, donc, c'est le jour du couronnement, et du coup, c'est pour ça que Hachem a demandé, je veux que vous disiez des versets proclamant ma royauté. Alors que ça, on n'en parle pas du tout, même de façon la plus allusive qui soit, dans les versets qui nous parlent de Rosh Hashanah. On parle, je vous ai dit, si on veut faire de la gymnastique, on peut trouver du chauffard, on parle du souvenir, mais de la royauté, on n'en parle pas. Alors, dans ces versets, donc l'idée est comme ça. Je me dis, vous dites des versets de telle sorte que vous arriviez à proclamer Mariotte. Comme s'il fallait se mettre dans le bain, en quelque sorte, avec des versets de la Torah, du Tanakh, en fait, qui parlent de la royauté d'Hachem, pour vraiment accepter Hachem comme roi. Et avec ça, il faut aussi le shofar. Parce que parler de la royauté, c'est donc couronnement du roi, shofar. Bamé, le shofar. Alors, par exemple, dans les 10 versets qu'on dit avant la sonnerie qui correspond à la royauté, le premier de ces 10 versets, c'est un verset de la Torah, excusez-moi, c'est pas vrai, le premier passouk, Malchouyot. Oui, c'est un peu compliqué parce que le premier passouk de Malchouyot, il vient. Oh non, c'est bon, c'est un verset de la Torah. C'est Viadata ayom bashevota elvavecha, ki Hashem hu Elokim bashamayim mimaal, v'la'aretz mitachat, en od. C'est un passouk au début de Sefer Dvarim. C'est un passouk qui est aussi dans Aleinu le Shaveach. Donc c'est ça le premier paro. Vous avez un passouk donc qui dit tu sauras aujourd'hui et tu ramèneras ça à ton cœur. Ça veut dire tu vas le comprendre et tu vas le descendre dans ton cœur que Hashem hu Elokim. Que Hashem est le Elokim dans les cieux en haut, sur terre en bas et il n'y a rien d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est vrai que le mot Melech, dans ce verset-là, il figure pas. D'accord? On dit, quand on parle d'Hachem, on parle de ce qu'il est Elohim, mais le mot Melech figure pas. Malchut. Malgré tout, ce verset-là, c'est le premier des versets qu'on dit au titre de la proclamation de la royauté divine. C'est parce qu'en vérité, le Rambam, il explique pourquoi on met ce verset-là. Il dit parce que c'est pas tellement important qu'il y ait le mot Melech, qui est le mot qui dit la royauté. Ce qui est important, c'est le contenu, l'idée de la malchoute. Un verset qui dit que Hashem hu Elokim, que Hashem il est Elokim, bashamayim mal. Et une autre, il n'y en a pas d'autre, c'est sans aucun doute une façon d'exprimer la royauté de la façon la plus parfaite. Donc, ce qui est très important, c'est de voir que c'est vrai qu'on veut dire la notion de royauté, mais la notion de royauté, elle ne s'exprime pas obligatoirement avec le mot. Uniquement avec le mot Meller. D'ailleurs, c'est quelque chose d'archi classique. Il y a un enseignement dans la Gemara qui dit que une bracha, une bénédiction, dans laquelle il n'y a pas le nom divin et le mot Meller Haolam, ce n'est pas une bracha. Regardez la première bracha de l'Amida, il n'y a pas le mot Meller. D'accord? Baruch atah Hashem, Elokeinu, Elokei Avoteinu, Elokei Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Il n'y a pas le mot Melech, il n'est pas là, dans la bracha elle-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Pourtant, ce n'est pas une bracha, alors? Alors, on explique qu'en disant que c'est Elokei Avraham, et qu'Avraham, il a proclamé qu'Hashem était. Le maître du monde, il était le Dieu du ciel, puis ensuite aussi le Dieu de la terre. D'accord? Donc ça, c'est la royauté. Donc là aussi, dans la première bénédiction de l'Amida, elle ne contient pas le mot Melech, mais elle dit la malchoute d'Hachem d'une autre manière, en disant Eloke Abraham. Hachem est le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire celui que Hachem, que Abraham a fait connaître comme étant le maître dans le ciel et sur terre. Donc ici aussi, d'accord, c'est parce qu'il est Elohim. Hachem, Hu a Elohim, il est l'Elohim, le Dieu en haut, en bas, et qu'il n'y en a pas d'autre, c'est une façon de dire qu'il est le Melech. Il y a une question sur question classique qui est que quand Eliezer, le serviteur d'Abraham, est allé chercher une épouse pour Yitzhak, pourquoi il a testé, quand il a testé la fille, il a testé, il a dit, la fille à laquelle je demanderai de me donner à boire et qui dira bois et je vais aussi abreuver tes chameaux, etc. C'est ça la femme. C'est elle qui sera la femme d'Israël. Alors, beaucoup posent la question, pourquoi est-ce qu'il a regardé si Rivka avait, dans cette femme-là, est-ce qu'elle avait la qualité, c'est quoi cette qualité qu'il a voulu tester? C'est une qualité qui s'appelle chesed, générosité. Une fille, tu lui demandes quelque chose, non seulement elle accepte, mais elle te donne encore plus que ce que tu lui as demandé. Alors tout le monde demande, mais pourquoi il n'a pas regardé si elle avait de la Yirat Shamayim, si elle croyait en Dieu, etc. Rien du tout, il lui a rien demandé de tel. Il s'est occupé de savoir si elle pratiquait le chesed ou pas. En fait, on répond que cette éducation sur croire en Dieu, ces trucs comme ça peut s'apprendre. Bon, parce que c'est de l'ordre de l'intellect. Par contre, Rabbi Israël Salanter a expliqué que les midot, les qualités humaines, ça s'apprend pas si facilement que ça. On les modifie. Et lui, ce qu'il a voulu regarder, est-ce qu'elle a les bonnes qualités humaines pour être une matriarche, donc la femme de Israël. C'est pour ça que il a regardé ce point-là, et c'est pour ça que dans le verset qu'on a cité, le verset dit pas seulement tu sauras, mais que tu ramèneras ça à ton cœur aussi. Vashevot ki Hashem hu Elokim. Tu vas ramener dans ton cœur. Le cœur, c'est l'organe qui dirige. Bon, c'est pas la pompe, c'est le cœur, il est plutôt là, quoi. Mais bon, dans l'idée, c'est que tu vas le ramener ça dans ton cœur. Pourquoi? Parce que on veut que les émotions, les sentiments, eux aussi, soient bons, soient parfait. Eux aussi, faut aller les tester. Il est allé chercher surtout quelque chose qui, d'accord, c'est très bien intellectuellement, savoir et tout, mais est-ce que ça gouverne ta vie, cette chose-là? Est-ce que tu as compris? Comprendre que c'est Hachem, le roi du monde, c'est très bien intellectuellement, mais est-ce que tu comprends les choses de telle sorte que tu vas organiser ta vie en fonction de cela. Tu vas maintenant intégrer que tu dois accepter Hachem comme roi avec ce qu'on en a dit. Et si on regarde de la même manière le premier verset, le premier des 10 versets qui sont dits sur les Ziphronot, sur les versets qui ont pour but d'amener notre souvenir devant Hachem pour qu'il puisse nous bénir, en fait. Alors, le premier verset, c'est là, du coup, pas, encore là. Le premier verset des Zichronot, c'est quoi? C'est Vayizkor Elohim et Noach, Vet Kolachaya, Vet Kolabema, Asherit Tovateva. Elohim s'est souvenu de Noach, de tous les animaux, de tout ce qui était avec lui dans l'arche. Vayaver Elohim, Ruach à la Haaretz. Elohim a fait passer un vent sur terre, de telle sorte que les eaux se retirent. Les eaux ont été poussées de côté. Ça, c'est la notion de Zicharon, souvenir. Elohim s'est souvenu de Noah. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que, voilà, le monde est complètement sous les eaux, c'est le Maboul, c'est le déluge. Et tout à coup, Hachem dit, ah, ils ont complètement oublié, ceux-là, les paumés, là, dans leur arche, c'est ça? Il s'est rappelé tout à coup de ce pauvre Noach et de tous ces gens-là qui sont dans l'arche. Alors, bien sûr que c'est pas ça. Rashi, il explique que Hachem s'est souvenir de Noach et de ses fils, de leurs actions et de leurs bonnes actions. Il s'est souvenu des animaux. Et en fait, les animaux, ils avaient été complètement fourvoyés par les gens à l'époque du déluge, avant le déluge. Ils avaient fait toutes sortes de manipulations génétiques, on dirait aujourd'hui, pour modifier effectivement le genre animal aussi, pour que des espèces qui sont pas interfécondes, se rencontrent, etc. C'est-à-dire qu'Hachem a décidé de faire fonctionner cette notion de souvenir. Et du coup, les eaux qui étaient venues sanctionner l'humanité, enfin, les gens, le monde, etc., ben, les eaux, là, ça fait partir de ces eaux, c'est terminé. Il a considéré que voilà, ils ont montré, Noach et ses fils, dans l'arche, ils ont montré qu'ils étaient responsables. Parce que la Gemara, elle raconte que Abraham, il a, non, c'est Abraham qui a rencontré Shem, qui a rencontré le fils de Noach. Il lui a dit, comment c'était dans l'arche. Là, j'étais aussi dans l'arche et c'était terrible, on n'avait pas de jour et de nuit parce que il y a des animaux qui mangent que de nuit, des animaux qui mangent que le jour, donc on était sans arrêt sur le pont. On n'a pas eu un instant de répit. Donc on voit que ils se sont sentis responsables du monde et c'était parce que les générations, enfin les gens à l'époque du déluge ne se sentaient pas responsables, ils pensaient qu'ils pouvaient utiliser le monde, mais sans s'occuper, se sentir responsables du monde. Et donc, à partir du moment où on a retrouvé des gens à partir desquels on peut faire repartir l'humanité, qui eux sont responsables, alors, c'est terminé, les eaux peuvent maintenant s'en aller. Et donc, Hachem a fait en sorte que les eaux s'en aillent, il a envoyé ce vent pour faire disparaître les eaux à la surface de la terre. Donc, Hachem s'est souvenu d'eux, c'est-à-dire, on a regardé qui ils étaient. Le souvenir, c'est un espèce de jugement. Ce souvenir, c'est regarder qu'est-ce qu'on a devant nous. Et donc, le premier verset qui parle de la notion de souvenir, comme le souvenir qu'Hachem a demandé que se souviennent pour que le souvenir d'Ebné Israël monte devant Hachem et qu'Hachem puisse nous faire du bien. Souvenir, donc, semble-t-il, positiver, quoi, positif, pour qu'Hachem puisse nous faire du bien. C'est si le souvenir des hommes monte et qu'ils les hommes se sont disqualifiés, ça va pas marcher. Mais Hachem avait déjà dit à Adam que je vais les juger, les descendants, mais je vais les acquitter. Ça veut dire, on va regarder les choses avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de bonne volonté pour aller chercher les éléments positifs qu'il y a. Et pour le fait est que, quoi qu'il en soit, les Bnei Israël ont survécu jusqu'à aujourd'hui. On est encore là.
Question. Pour revenir au début du cours, vous avez dit qu'il n'y avait aucun ancrage réel dans la Torah sur Rosh Hashanah par rapport aux fêtes. Est-ce que le fait que ce n'est pas d'ancrage, c'est évidemment individuel, et quel enseignement on peut tirer de ça? Est-ce que c'est une volonté que le travail sur la Torah Shebe'al-Peh soit plus important? Est-ce que ça participerait du souvenir? Parce que moi, ce que j'entends dans le souvenir, c'est aussi le souvenir de soi-même. C'est-à-dire de se souvenir de soi-même dans le dispositif qui est proposé. Parce que quand on dit de comment dire, de reconnaître Hachem comme Néner, moi je le vois par rapport à Kippour aussi, c'est-à-dire que comment peut-on être pardonné dans notre relation avec Hachem si on ne sait pas de qui on est pardonné? C'est-à-dire s'il n'y a pas de reconnaissance, alors à ce moment-là on se fait pardonner, mais il y aurait comme une sorte de vide de moi, je ne peux pas être pardonné si je ne sais pas par qui je suis pardonné. Qui me pardonne?
Non, mais Hachem a dit, Imrou le Fanaï, dites devant moi. C'est pour ça que ces versets-là, on les dit dans la Hamida. La Hamida, justement, la Shemoneh Esrei, enfin, en l'occurrence, il n'y en a pas 18 ou 19, mais donc la Hamida, c'est ça la prière. Et qu'est-ce que c'est la prière? C'est se tenir devant Hachem, justement.
Et la dernière chose, c'est sur le chauffard. En fait, sur les autres fêtes, comme il y a eu un ancrage dans le réel, on comprend un petit peu pourquoi la matzah, pourquoi là, comme il n'y a pas d'ancrage dans le réel. Pourquoi le chauffard? Pourquoi ça et pas autre chose? Mais pourquoi le son? Parce qu'à la limite, si c'était pour réveiller notre torpeur, à ce moment-là, il faudrait que ça soit énorme. Ça, c'est.
Non,
J'ai du mal
le
à comprendre.
chauffard, il fait pas mal de bruit aussi, hein. Il y a eu du chauffard au moment du matin de Torah,
Ouais, c'est ça, moi, j'ai
en
noté.
plein dans le sang et lumière de matin de
Voilà.
Torah, il y avait le chauffard.
D'accord.
Et il y aura le chauffard à la fin des temps.
Donc c'est quand même ça, une relation avec ça.
Oui, alors enfin, ce qui se passe, c'est le chauffard, on a expliqué, c'était lié à Akedat Yitzhak, à cause du. C'est les cornes du fameux bélier, etc. Et ça c'est le chauffard. Et maintenant, l'idée du souffle, c'est réminiscent de la création de l'homme. Comment est-ce que l'homme a été créé? Il a pris, marqué, il a pris de la terre, de la glaise, il a fait une espèce de bonhomme en. Pas de bonhomme de neige, mais bonhomme de terre, quoi, si vous voulez. Et puis, ça a donné, disons, on va dire aujourd'hui, les hominidés, quoi, quelque part. À un moment donné, Hachem a insufflé à ce truc-là, il lui a insufflé sa neshama. Qu'est-ce que c'est la neshama? C'est la respiration divine en nous. C'est-à-dire, la part, c'est en ça que notre neshama est divine. Parce que c'est le souffle divin, en quelque sorte. Alors, c'est l'expiration, si on peut parler comme ça, d'Hachem, qui est notre inspiration à nous. Et donc, vous avez, quand vous soufflez dans le chauffard, c'est comme si, alors il y a plusieurs lectures possibles, c'est comme si on faisait nous la même chose, on va insuffler au monde. D'accord? Notre intériorité. Donc, quelque part, c'est une espèce de responsabilité par rapport au monde, de la même manière qu'Hachem nous a donné la vie, etc., par le souffle, nous, on donne un peu la vie au monde par le souffle qu'on émet dans. Et Hachem lui-même sonne du chauffard. On voit bien, c'est toujours cette même idée. Il insuffle une vie au monde et nous, on fait la même chose. On essaie de faire la même chose à notre échelle, en quelque sorte. Donc ça, c'est là pourquoi, vous demandez pourquoi le souffle. Pour cette raison-là, parce que c'est l'homme qui joue le rôle qu'Hachem veut qu'il joue, c'est-à-dire un rôle dans lequel ben, il est l'associé d'Hachem. Il fait par rapport. Donc c'est pour ça, bamé béchofar, c'est-à-dire publier la royauté de la chaîne, avec quoi? Ben avec du chauffard, justement. Parce que c'est ça, c'est lui donner de la vie à cette royauté. On investit on met de notre intériorité dans la publication de cette royauté, de ce souvenir et de ce chauffard.
Et sur la première partie de ma question, sur le non-ancrage et le fait de ne pas donner.
Alors,
Est-ce qu'il y a un rapport avec la Torah Shebe'ah, particulièrement sur Rosh Hashanah?
bien sûr que tout ce qu'on sait de Rosh Hashanah, c'est pratiquement Torah Shebaal-Pé. Bon, il y a rien. Dans la Torah, on ne sait rien sur Rosh Hashanah. Mais j'avais expliqué, je vous ai dit là, que Rosh Hashanah, il faut le voir par rapport à Kippour. Mais pas comme étant quelque chose d'avant Kippour. C'est-à-dire, où Kippour est simplement le fait de sceller les résultats du test de Rosh Hashanah. En fait, je vous ai expliqué, je crois, la dernière fois, que quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or, au moment des premières louchot, au moment où Hachem a donné la Torah, il a dit à Abraham, il a dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire ce peuple et je vais en construire un autre avec toi. Et alors Moshe lui a dit, non, je ne suis pas d'accord. Si tu leur pardonnes pas, tu peux m'effacer de ton livre. Donc, je suis pas un nouvel Abraham, je suis pas partant pour construire. Il a dit, si quand tu as construit à partir d'un trépied, c'est pas stable, c'est pas en construisant à partir d'un seul bonhomme que ça va devenir stable. Et Hachem a finalement cédé, mais c'était très lourd. D'accord? Moshe Rabbeinu, il a dû monter au Sinaï pour essayer de négocier, mais ça n'a pas marché. Il est redescendu. Ensuite, il est remonté. Et pendant 40 jours, donc, il a négocié avec Hachem. Et c'est tout à la fin que finalement, Hachem a été d'accord et qu'il lui a donné les deuxièmes louchot. Et donc, Yom Kippour. Mais, dit le Midrash, 10 jours avant que Hachem accepte, il y a eu un petit changement. C'est-à-dire que jusque-là, c'était niet. Rien du tout. 30 jours, rien du tout. Non, je leur pardonne pas. Pardonne pas. Et 10 jours avant le 40e jour, en quelque sorte, tout à coup, Hachem a, le dit le Midrash, Hachem a commencé à être plus souple, plus flexible, etc. Or, 10 jours avant Yom Kippour, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire que Rosh Hashanah n'est pas, il n'y a pas Rosh Hashanah puis Kippour. Rosh Hashanah n'est que un espèce de commencement de Kippour, parce qu'on peut parler comme ça. Une espèce d'embryon de Kippour. Alors c'est un peu paradoxal, ça veut dire que le jugement n'est pas la chose fondamentale. Le jugement, il n'est que le moyen de pouvoir pardonner à Kippour. Alors, c'est une chose un peu difficile à comprendre. Je dis pas que le jugement soit seulement un moyen d'arriver à pardonner. Quelque part, c'est un peu comme dire, pas que j'ai besoin de savoir qui pardonne, parce que ça, on le sait, mais de savoir effectivement qu'est-ce que je pardonne. On a presque, quand on dit qui pour, on a presque l'impression que ben, on pardonne la faute du vaudor. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le vaudor. Tout à coup, c'est un jugement pour des kippours ou notre kippour à nous. C'est vrai qu'on dit que toutes les fautes qui se font dans le monde ont toutes quelque chose qui vient du vaudor. Je parle d'une espèce de trace du veau d'or qui est là et qui est toujours à l'œuvre. Mais quand on est jugé sur, en particulier sur la façon dont on reçoit la royauté d'Hachem. Et Kippour, il est la suite de ça. Donc, il faut comprendre que le pardon qui a eu lieu à Kippour, en disant qu'on pardonne la faute du veau d'or, ça veut dire ça porte en soi tous les pardons ultérieurs. Ça veut dire, comment, c'est seulement parce qu'on a pu il a pardonné la faute du veau d'or qu'on peut pardonner d'autres choses, en fait. Et donc, l'idée, c'est, il faut, peut-être qu'il faudrait l'entendre comme ça veut dire que, dans le jugement de Rosh Hashanah, sur les fautes, il y a toujours quelque chose réminiscent de l'histoire du veau d'or. Quelque part, voilà, on a fait des fautes, mais au fond, toutes nos fautes ne sont jamais que des espèces d'avatars ou de mini-avatars ou avatars partiels de la faute du veau d'or. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu difficile, ça m'est un peu difficile d'expliquer ce que. Je vois bien que Rosh Hashanah est un commencement d'un embryon de Kippour, mais alors comment on place le jugement ici à cet endroit-là? Bon, j'essaie de le dire un peu comme ça. Alors, cette idée de Torah Shebaal Peh, oui, c'est juste que tout vient de la Torah Shebaal Peh. Mais il faudrait dire comme ça. Pour que la Kippour, qui est vraiment la Torah, chez Birtav, pour que le pardon de Kippour, qui est la Torah chez Birtav, puisse avoir lieu, il faut un travail de préparation au niveau de la Torah chez Baal Peh. Ce travail de préparation, c'est le jugement de Rosh Hashanah.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut s'appuyer pour raisonner que sur Kippour, qui est dans le
Ça,
segment
c'est du
Rosh
mamash,
Hashanah.
ça.
On ne peut s'appuyer que sur Kippour pour comprendre Rosh Hashanah.
C'est ça. Et c'est ce qu'on pense, c'est ce qui est un peu nouveau, quoi. On a dit maintenant, c'est un peu ça la beauté, parce que c'est pas comme ça qu'on l'entend d'habitude. Voilà, on va s'arrêter là.